Buongiorno.
Vous aimez le cinéma ?
Beaucoup.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est ?
Actualité cinéma et tout le reste.
Ça te satisfait ?
Intensément.
Sur Divergence FM.
J'aime bien discuter des films, vous voyez, et échanger des critiques.
Cela ne peut que nous réunir.
Prenez le chemin habituel, la radio.
Ici, avec nous.
Le silence va plus vite à reculons. Trois fois.
Cinérama sur Divergence FM.
Eh bien, je vous écoute.
Bonjour et bienvenue à Cinérama sur Divergence FM, votre émission cinéma du mercredi 10 mars. Alors aujourd'hui, eh bien, nous sommes trois dans le studio et c'est plutôt heureux. Donc bonjour Martin.
Bonjour.
Et bonjour Patrick, notre
Salut.
Invité du jour. Patrick qui va nous parler. Alors si on t'a invité, c'est pour parler d'un prophète parce que Audiard, vient avec son film, a raflé les 9 Césars de la cérémonie 2010. Donc pour nous, c'était l'occasion, puisque c'est un film qu'on a plutôt bien aimé, d'en reparler. Et donc tu m'as dit avant l'émission quand même que toi, tu préférerais parler plus largement d'Audiard que d'un prophète.
C'est ouais, ça si tu as envie, ouais, évoquer ce grand personnage qui marque des points... dans la cérémonie des Césars, je pense que c'est peut-être intéressant de faire un léger retour, un léger flashback sur l'ensemble de sa carrière, maintenant qu'il est considéré, labellisé comme le grand auteur français du cinéma actuel. C'est peut-être intéressant de proposer quelques pistes de réflexion sur qui est Audiard, qui se cache derrière ses films en fait.
Donc ça, eh bien, ça viendra après quelques chroniques, hein, que tu vas proposer, Martin.
Oui, ben moi, aujourd'hui, je vais vous parler de trois films qui sont sortis, ben, les trois, la semaine dernière. Donc en premier, Crazy Heart de Scott Cooper. Je vous parlerai aussi un petit peu de The Ghostwriter de Polanski. Et je terminerai, si on a le temps, par vous parler de Daybreakers des frères Spirig, un film de vampire que je suis allé voir cette semaine.
Et puis moi, eh bien, je parlerai de Precious de Lee Daniels, film qui a plutôt bien fonctionné aux Oscars, même s'il n'a pas eu eh bien, le prix du meilleur film. Et puis, si on a le temps, là encore, on parlera de Shutter Island, qui est sorti déjà depuis 15 jours, hein, c'est ça, le film de Scorsese, puisqu'on l'a vu tous les trois. C'est un avantage.
D'accord.
Et Patrick, tu as encore beaucoup de choses à dire là-dessus. C'est à toi, Martin.
Eh bien, on va commencer donc avec Crazy Heart. Donc, dimanche dernier, sur la scène du Kodak Theater à Los Angeles, Jeff Bridges s'est vu remettre l'Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans Crazy Heart de Scott Cooper. Donc, un film qui est sorti mercredi dernier sur les écrans français. Alors, ce prix vient récompenser, comme il se doit, notre fumeur de cannabis préféré qui, depuis la dernière séance de Bogdanovich jusqu'à Iron Man, en passant par Tron, Fisher King, The Big Lebowski, K-Pax, où Tideland s'est offert en quelques 40 ans une carrière assez particulière dans le paysage hollywoodien, puisqu'il a tourné avec une pléthore de réalisateurs importants comme Coppola, comme Sidney Lumet, Alan G. Pakula, Terry Gilliam, John Carpenter, les frères Coen, etc. Et il a alterné donc, tout au long de ses 40 ans de carrière les grosses productions avec des films d'auteurs plus confidentiels. Alors dans Crazy Heart, Jeff Bridges incarne Bud Blake, une ancienne star de musique country dont la carrière progresse de façon inversement proportionnelle à la taille de son embonpoint. Donc de bar minable en salle de bowling plus ou moins crasseuse, Bud Blake traîne sa carcasse fatiguée, sa vieille guitare et son ampli d'un autre âge pour aller satisfaire ses vieux fans dont la plupart ont enterré depuis belle lurette leurs vertes années. Et son dernier espoir de réussite aujourd'hui, c'est de faire la première partie d'un jeune musicien qu'il a lui-même formé et peut-être de composer quelques chansons qui seront chantées par d'autres. Alors malheureusement, Bud est un vieux bougon qui ne supporte pas son ancien protégé et qui picole un peu trop pour arriver à pondre des textes valables. Bref, rien ne va plus dans la vie de notre ancienne idole et ça commence à sentir méchamment le sapin pour le légendaire Bud Blake. Donc jusqu'au jour où, fraîchement débarqué à Santa Fe, au Nouveau-Mexique, pour un énième concert dans un énième rad minable, il va faire la connaissance de Jean, une jeune journaliste qui va lui redonner un peu goût à la vie. Alors Scott Cooper, avec ce premier film en tant que réalisateur, eh bien, il dresse le portrait d'un homme cabossé par la vie, un cousin du wrestler de Darren Aronofsky, qui noie sa solitude dans le bourbon et qui chante avec une voix éraillée par l'alcool et la clope des vieilles chansons qui racontent sa vie d'errance. Alors dans le rôle de cet homme au bout du rouleau, barbu, bedonnant et débraillé, Jeff Bridges prouve encore une fois qu'il est un acteur transformiste et il s'impose dans la course à l'Oscar devant George Clooney, Morgan Freeman et Colin Firth. Alors malgré cette récompense, il faut bien reconnaître que Crazy Heart, c'est un film assez anecdotique, même s'il est plutôt réussi, qu'il se laisse agréablement regarder pour peu que la musique country ne vous écorche pas les oreilles. La déambulation de Bud à travers les États-Unis donne à Scott Cooper et à son directeur de la photo l'occasion de magnifier l'aridité et la désolation des paysages du Nouveau-Mexique ou du Texas, mais elle est avant tout une excellente façon de nous plonger dans le quotidien d'un musicien de petite envergure qui est obligé d'assurer sa tournée tout seul et de jouer chaque soir avec un nouveau groupe. Alors en cela, Crazy Heart peut aussi être comparé, encore une fois, à The Wrestler, puisqu'il donne à avoir un univers particulier où chaque jour est un recommencement, une reprise de vieilles formules qui contribue à enfermer le personnage dans une routine et où le public finit par être la seule chose qui se renouvelle. Alors le reste du casting réserve quelques belles surprises, avec par exemple deux petits rôles tenus par Robert Duvall et Colin Farrell. Et quant à l'ange rédempteur qui va sortir Bad Blake de sa torpeur, c'est Maggie Gyllenhaal qui l'incarne avec une tendresse et une grâce assez éblouissantes. Comme Bad, on tombe en quelques secondes sous le charme de la comédienne et l'histoire d'amour qui se noue entre elle et le vieil ours malfamé n'en est que plus touchante, puisque Scott Cooper parvient quand même à éviter tous les écueils du drame romantique pour nous proposer une vision finalement moins pétrie de bons sentiments que celle d'Aronofsky sur un sujet très similaire. Mais bon, le principal intérêt de ce film, et ce qui le fera assurément rentrer au panthéon du 7e art, c'est qu'il va nous fournir une ponctuation musicale pour cette émission. En effet, Crazy Heart, c'est avant tout un film sur la musique, et en particulier sur la musique country, donc un véritable personnage à part entière du film, et personnage bavard qui plus est, puisqu'une bonne quarantaine de minutes de musique a été composée pour l'occasion par T-Bone Burnett, Ryan Bigham et Stéphane Breton. Donc ce dernier étant tragiquement mort d'un cancer de la gorge quelques mois après la fin du tournage. Donc à noter que la plupart des morceaux, et donc les quelques morceaux qu'on va écouter, sont interprétés par Jeff Bridges et Colin Farrell, ce qui ajoute au réalisme de l'ensemble. Donc voilà, Crazy Heart, à mon avis, c'est voilà, une grande déclaration d'amour à la musique, à ceux qui la font, même s'ils doivent pour cela sacrifier leur vie de famille. Donc un film léger qui se regarde et qui s'écoute avec intérêt, qui bénéficie d'un très bon casting, mais bon qui ne restera pas forcément très longtemps dans les mémoires. Donc je vous propose d'écouter tout de suite un petit extrait de la bande originale de Crazy Heart.
Your heart's on the loose. You rolled them sevens with nothing to lose. This ain't no place for the weary kind. You called all your shots, shooting a ball at the corner truck stop. How this don't feel like home anymore. And this ain't no place for the weary kind. And this ain't no place to lose your mind. Place to fall behind. Pick up your crazy heart and give it one more try.
Voilà donc un extrait de la bande originale de Crazy Heart. Avec,
très revigorante.
Très revigorante, histoire de bien commencer l'émission. C'est Colin Farrell donc, qui interprète cette chanson, écrite spécialement pour le film, qui a eu d'ailleurs l'Oscar de la meilleure chanson original composé pour un film.
Voilà. Vive donc, la country.
Ouais.
Quand on s'arrête.
Moi, bon, j'ai sélectionné quelques autres morceaux qui sont peut-être un poil plus péchu.
Plus péchu.
Ouais. Là, c'est balade.
Voilà, alors deuxième chronique consacrée à Precious de Lee Daniels. Alors elle s'appelle Precious Jones, elle a 16 ans, elle habite Harlem, nous sommes à la fin des années 80. Elle est noire et elle est plus que grosse, elle est obèse. Avant que ne commence vraiment le film, on sait qu'elle a une petite fille, Mongo, pour mongolienne, puisqu'attardée mentale, fruit des viols à répétition commis par son père et qu'elle est à nouveau enceinte. Alors on le répète, elle a 16 ans. On est là aux prises en tant que spectateur avec une vie de merde. S'il y avait un soutien familial de sa mère avec qui elle vit, peut-être qu'on serait dans un mélodrame nuancé. Mais non, sa mère, c'est un bulldog, prêt à toutes les vacheries, les insultes, les violences. Alors pourquoi tant de haine? On en saura davantage à la fin du film, où la mère devra s'expliquer devant l'assistante sociale. Car le film nous fait suivre la vie de Precious, soit son handicap, ses malheurs et son tempérament qui ne la rendent pas plus sympathique que ça. Et puis ses envies, comment elle fait pour avancer, sa mauvaise foi fondamentale, son envie folle et illusoire de faire la couverture des magazines, d'être au bras d'un joli garçon, d'être adulé sur scène, autant de potions fantasmatiques qu'on voit à l'écran et qui contrastent avec son quotidien qui ressemble plus à celui de Cosette. Mais dans ce film, adapté d'un best-seller qui s'intitule Push de la poétesse Saphir, où c'est l'école alternative qui va devenir l'antidote à la vie de merde, Precious va passer de l'analphabétisme à la prise de parole grâce à une professeure remarquable, noire elle aussi, et bien évidemment douce et compréhensive. Alors le scénario est balisé, et peu à peu, tous les rêves de gloire de Precious vont disparaître au profit d'une prise de conscience. En verbalisant dans un carnet de liaison son quotidien, elle va peu à peu affirmer aux autres l'inceste, la violence de sa mère et puis son envie de s'en sortir. Alors c'est un film entre femmes, mère, grand-mère, prof alternatif, assistante sociale. Les rôles masculins sont presque de l'ordre du fantasme avec un professeur de mathématiques rêvé et puis un infirmier interprété par Lenny Kravitz. Et oui, incarnant le bon gars sexy, même si les copines de Precious moquent son boulot plutôt réservé aux femmes, c'était encore plus vrai dans les années 80. Alors c'est le deuxième film de Lee Daniels, un autre film Shadow Boxer tourné en 2006 pourrait éventuellement sortir bientôt, parce que je pense que Precious va faire un petit succès. Alors il n'a pas voulu d'un conte misérabiliste, même si la vie de Precious est difficile, on a des couleurs chaudes, des passages hallucinés très fantaisistes où elle se rêve et un rythme soutenu entre violence d'un côté et espoir de l'autre. Alors on ne parlera pas de happy end mais d'une issue plutôt optimiste. On n'est donc pas dans la mine avec Zola, mais à Harlem. Alors, Precious, donc pas de misérabilisme, mais au contraire, un film engagé, voilà, qu'on peut conseiller. C'est pas forcément un mauvais film. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a de la country? Il n'y a absolument pas de country. On est dans les années 80, c'est Harlem, donc il y a de la musique chaude, noire.
Soul.
Voilà, d'accord. De la soul. Absolument. Mais c'était pas prédominant. C'est surtout les couleurs chaudes en fait qui ressortent de ce film en fait.
Qui est coproduit, je crois, par Lenny Kravitz. C'est ça, si j'ai bien suivi.
Et Oprah Winfrey.
Ah, ouais. Voilà. Des gens qui ont pas trop d'argent.
À oui, un cinéma indépendant. Qui a eu la larme à l'œil en regardant ce film. Donc voilà, qui a donné un peu de son argent pour la distribution. Et ça a été payant puisque je crois que c'est le meilleur second rôle, donc celle qui joue la mère de Precious, donc le bulldog du film, qui a remporté l'Oscar du meilleur second rôle. Voilà. Et c'est amplement mérité parce que c'est pas une partition facile en tout cas.
Ok.
Voilà, Precious est projeté au Diagonale. Alors on passe au gros morceau maintenant, c'est pour ça que tu es là à présent, au micro de Divergence, Patrick, nous allons parler d'Un prophète, et surtout du cinéma de Jacques Audiard. Alors pour rentrer un peu dans le vif du sujet, on va écouter eh bien, un petit extrait du prophète, parce que le prophète, bah, ça se passe dans la prison, voilà, hein, donc on va écouter cette entrée dans la prison.
Les mains, passez vos mains dans les cheveux, ouvrez la bouche, tirez la langue, retournez-vous, montrez-moi la plante de vos pieds, l'autre, baissez-vous, toussez.
Il n'y a pas d'argent ici, tu le retrouveras à la sortie. Prépare un trousseau et une paire de pompes pour le monsieur, ça c'est pourri, tu gardes pas ça ici.
Vous avez quelqu'un dehors?
Un chef.
Vous n'avez personne pour vous envoyer de l'argent?
Non, chef.
Et si à l'intérieur vous connaissez du monde, amis, ennemis?
Personne, chef.
Vous allez passer les premières semaines en observation, le temps qu'on voit à quoi vous ressemblez. Comment vous intégrer ici à la centrale? Ensuite, on vous attribuera une cellule définitive. Vous êtes pratiquant?
Quoi?
Votre religion? Vous voulez assister à la prière? Vous avez un régime alimentaire spécifique?
Non, non, rien de spécial, chef.
Manger du pain?
Non, ouais, ouais.
Pour cantiner, comment vous allez faire si vous n'avez personne dehors pour les mandats?
Je sais pas, chef.
Vous voulez travailler? Vous savez faire quelque chose, à part agresser les flics avec une arme blanche?
Agresser les flics, j'ai rien fait du tout.
T'as une formation professionnelle? Autre chose?
Voilà, donc on rentre dans le vif du sujet hein, avec cette
c'est
scène.
Très brut.
Il y a une autre scène inaugurale où on entend des insultes. Enfin voilà, enfin tout
ouais,
un tas.
On est sur une caméra de surveillance au départ. Il a voulu un départ très très documentaire pour pouvoir justement échapper après au documentaire. Audiard fait des films de cinéaste, donc des films de fiction, mais qui sont très très documentés au départ, ce qui permet au début de passer déjà en astuce un mensonge. Hein, j'ai plus la phrase, je viens de la perdre à l'instant là, désolé, mais il y a un mensonge et du vous au tu, on passe vous et puis d'un coup c'est du t'as une formation professionnelle, voilà, il immerge un personnage vierge, totalement vierge ce personnage quand il rentre dans cette prison qui n'est pas à mon avis le sujet principal de ce film là,
même si on y reste longtemps
on s'en échappe aussi quelque part, même si le mot peut-être est mal choisi, on s'en échappe, on y revient. C'est un sous-genre le film de prison en soi, mais c'est pas ce qui à mon avis a conditionné le désir d'Audiard de filmer cette histoire. On est plus dans un récit initiatique, dans un désir toujours d'apprentissage, dans un duo. Ça, ce sont les marqueurs récurrents dans l'œuvre de Jacques Audiard qui reviennent film après film. Je sais pas si Vincent aura le temps de parler de la filmo, mais tout ça revient dans les films, dans ces films-là. Et c'est cette séance introductive, finalement, elle n'introduit pas grand-chose, si ce n'est qu'on va pouvoir basculer d'un régime documentaire qui nous renseigne juste sur le fait que le gars qui fait le film, il sait comment ça se passe. Pour après basculer sur un régime beaucoup plus fictionnel. Loin des folklores, hein, puisque ce qui est l'intérêt du cinéma d'Audiard en général et de ce film-là, c'est de s'éloigner le plus possible des représentations balisées du cinéma conventionnel et traditionnel. Quoi. Et c'est là que réside la force de ce monsieur qui est au-delà des simples Césars, hein, qui est une cérémonie de promotion quand même, et hein, c'est un boulier quoi. C'est ce qui place ce monsieur aujourd'hui dans une situation un peu particulière dans le cinéma français, je pense même un plan plus européen, une position vraiment à part.
Un film qui a plutôt bien fonctionné auprès des Américains, hein, puisqu'il était nominé hein,
ouais,
pour les
nominé,
Oscars.
Nominé, mais pas récompensé. Mais la nomination en soi est déjà une reconnaissance sur le marché américain qui est très très dur en pénétration, si on parle de valeur économique. Et ce qu'il faut souligner, c'est qu'aujourd'hui, il y a des puces, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont très attentifs à ce que fait Audiard, qui lui-même s'inspire du cinéma américain par certains côtés. Mais les Américains regardent aujourd'hui ce qu'il fait. Par exemple, de Battre mon cœur s'est arrêté, c'était un film qui avait été tourné en 80 par James Toback, un metteur en scène qu'adore Tarantino, par exemple, et qu'adore a fortiori Audiard, qui s'appelait Five Fingers, avec Harvey Keitel. Donc il y a dans le film Audiard des citations du cinéma américain, et je pense que bientôt on verra des films américains qui s'inspirent dans leur état d'esprit de ce que fait Audiard, qui est, c'est un mot qui va revenir souvent, je pense, unique aujourd'hui par l'envergure déployée, le talent. Et le travail, parce que avant tout, ce monsieur, il travaille, c'est un gros de travail, quoi.
Alors là, donc, on a écouté Malik. Hein. C'est Malik qui arrive dans cette prison. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il a fait, ce qu'il a commis. Enfin, là, le policier tente quelque chose. Visiblement, il aurait tabassé des policiers. On ne sait pas, on s'en fout. Ouais. Et puis, de toute façon, on ne le saura jamais. Hein. Enfin, il me semble. Hein.
Non, on ne le saura jamais. Voilà. Tout à fait raison.
Alors, comme tu l'as dit, ce film... eh bien, met en scène donc ce Malik avec un autre personnage qui serait une espèce de père hein,
bien sûr.
Dans cette prison. Alors on va écouter un des premiers rapports qu'ils ont et eh bien il va rencontrer César Luciani interprété par Nils Arestrup, voilà, qui a eu bien lui le César du meilleur second rôle.
T'as quel âge?
19 ans, pourquoi?
Tu me regardes pas quand tu parles, tu regardes le mec qui est à côté.
Oh,
c'est moi que tu regardes.
On m'a dit que t'avais pris 6 ans. Putain, ça va être long, 6 ans. Hein. T'as déjà eu des problèmes dans la cour. Tu crois que tu vas tenir longtemps sans protection?
Je tiendrai le temps qu'il faudra.
Vous voulez quoi, là?
Te protéger. Tu parles arabe?
Ouais, je parle arabe.
Il y a un mec qui t'a parlé dans les douches hier. Tu le connais? Qu'est-ce qu'il voulait?
Je sais pas, il voulait parler. Pourquoi?
Ne me regarde pas, je t'ai dit. Parce que je veux que tu continues. Je veux que tu t'approches de lui, que tu deviennes pote avec lui.
Pourquoi?
Parce que tu veux le tuer. capiano. Questo. Questo è per lui. Ma je crois que tu peux le faire. Tu vas pas être seul, on va être avec toi. Mais dis-toi bien une chose. À partir du moment où tu le sais, si tu le tues pas, c'est moi qui te tue. Ok, ça va, casse-toi.
Oh, c'est clair. Attends, tu te casses et tu fermes ta gueule, t'as compris?
Alors voilà, à la radio, on fait l'économie forcément de l'image. Donc à l'image, ils sont dans la cour de la prison. Il fait pas beau, je crois même qu'il neige un peu. Enfin, tout le monde se caille. On est là dans les premières séquences hein, du film.
On est dans les premiers mouvements.
Et là, tout de suite, ben voilà. Et
d'entrée, il y a un marchandage qui se met en place. Alors, un marchandage sur un meurtre commis en prison. Et aussi un rapport d'initié, initiation, rite de survie. Un rite qui conduit à une mutation. Les personnages d'Audiard, ça c'est pas inédit, ça se passe souvent, sont toujours en mutation. Ils partent de pas grand chose, d'un endroit où ils sont pas heureux pour aller vers quelque chose qui va les conduire autre part. Est-ce que c'est le bonheur ou pas ? Ça, après on en parlera, je pense. Et tu disais qu'effectivement on n'a pas les images à la radio, mais on a le dialogue qui est, je sais pas ce qu'on venait de vous le dire à vous, mais très très écrit. On dirait quelqu'un qui. Pèse chaque mot, il n'y a que voir les titres de ces films qui sont réfléchis et comme un peu mis en musique, quoi. Et les mots parlent d'eux-mêmes. Dans cette séquence-là, on pourrait se passer des images. Ce qui est important, d'ailleurs, c'est plus le dialogue et c'est là que ça se joue. Hein. Le filmage, dans cette séquence, si je me souviens bien, est très, très austère. On ne dépouille rien. Enfin, c'est très dépouillé. Il n'y a pas d'effet. Il y a juste un effet de réalité, justement. Hein, donc, on est sur du dialogue, là.
On voit ce Malik hein, qui est avec donc ce César donc qui est le chef des Corses à l'intérieur de cette prison. Il y a 5-6 Corses autour de lui et voilà. Enfin de toute façon il est piégé parce qu'on lui dit soit tu tues et si, puisque maintenant tu le sais de toute façon.
Oui
t'as plus de choix quoi.
C'est une voilà. Comme dirait pour paraphraser une c'est une ordre qu'il ne peut pas refuser si si on était dans le parrain ça serait la traduction c'est ça d'ailleurs c'est peut-être que c'est pas innocent que ça vienne si tôt, parce que dans le film de Coppola, ça vient assez tôt, ça aussi. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Je dis pas que les deux films se citent, loin de là. Mais les désirs des deux cinéastes sont aussi forts et l'envie de mettre de suite le spectateur dans une sous pression, quoi, est évident.
Donc là, forcément, ben, ça va aller très vite. Hein. Il va. Enfin bon, est-ce qu'on peut le raconter, j'imagine
Maintenant que le film est plus en salle de. Oui, on peut. Je pense que les gens l'ont vu. Et puis sinon, ça peut-être sans donner les ressorts dramatiques de la fin, donner le désir d'aller revoir le film.
Parce que, donc, Malik, on l'a compris, c'est un beurre. Donc, dans cette population carcérale, et ça c'est pareil, Audiard n'en fait pas l'économie, ce serait peut-être l'aspect aussi encore documentaire, même s'il ne s'attache pas qu'à ça, mais on va voir qu'il y a énormément de détenus qui sont des beurs, qui sont des musulmans, et ainsi de suite, donc lui c'est un traître, ce Malik, parce qu'au bout d'un moment, s'il accepte ce marché, ça veut dire qu'il va être protégé, on écoutera des extraits tout à l'heure, il va être protégé par les Corses, donc s'il est avec les Corses, il n'est pas avec les autres, c'est comme ça que ça se passe en prison.
C'est très ambigu tout le long du film, ça, c'est un individu face à des systèmes, et qui, ça aussi c'est une constante de Simon d'Audiard, un individu face à un comportement sociétal, une caste ou quoi. Donc là, je pense pas que ce qui préoccupait Jacques Audiard, c'était que ce soit des rebeux, pas des rebeux, des Corses ou pas des Corses, ça c'est anecdotique, ça a amusé les journalistes au moment de la sortie du film, mais le sujet, comme d'ailleurs le titre, le prophète, c'est pas du tout un prophète, ça n'a aucun rapport avec
la religion.
Une religion. Hein, c'est tiré d'une chanson de Bob Dylan que Audiard écoutait en boucle et qui lui a inspiré le titre. Donc vous voyez, on est loin de ces problèmes-là. Mais j'y vois pas donc moi une lutte de classe ou de clan, j'y vois juste un individu face à des systèmes. Et si tu te souviens bien du film Vincent, tout le long du film, il va faire des allers-retours entre ces communautés et un lien justement qui va lui permettre après de créer sa propre indépendance, ça aussi ça, c'est cher au cinéma d'Audiard, et d'acquérir une autonomie et de se réaliser. Parce qu'on parle d'un individu qui n'est rien quand il rentre, qui sortira comme un caïd au sens pas uniquement noir du terme, un homme réalisé, on va dire. Voilà.
Alors on va écouter justement eh bien, un autre extrait où il est avec ce fameux Luciani, et voilà, ben on écoute.
C'est toi qui vas le garder maintenant. Tu le gardes, mais tu t'en sers pas. Tous les matins ne sont pas des Libanaises. Et s'ils le trouvent, tu iras en mitard. Tu continues à t'occuper du linge, à faire le ménage. Voilà.
Ibanez va te faire transférer dans la cellule d'à côté. Et moi, je vais te faire passer au XI. Tu seras payé, tu pourras cantiner, tu pourras te balader partout dans la tour. Ça là, il m'a ôté et il m'a arrêté.
Et pour les autres?
Quoi, mes amis? Tu es sauvé comme les autres. Ça va, t'es content, t'as l'air de faire la gueule, là?
Non, ça me va, ça.
On a dit, là.
Voilà, donc autre exemple, là il est sous la coupe de ce César, donc ça c'est quelque chose de récurrent, hein, tu disais, dans le cinéma d'Audiard. Hein,
ouais, le personnage s'appelle César, bon, mais s'il est corse, c'est pas un alibi, il a un nom qui le ramène à un régime de dignitaire, hein, c'est le boss de la prison, il y a là une gratification, il est gratifié, il va cantiner, il y a plein de choses qui se mettent en place, il est en train de grandir ce personnage, à l'image de tous les films d'Audiard. On voit la progression, la mutation des personnages, et se met en place ce système-là de façon très naturelle. La progression dans les films d'Audiard, les personnages, est très naturelle. La logique des plans de construction, à la fois sur le plan physique, emprunté, je pense, à un certain classicisme du cinéma français, je pense à Jean-Pierre Melville, par exemple. Ça, c'est pour la construction physique. Et d'un côté, on a un certain rapport, à mon avis, hein, en tradition du film noir américain, avec un metteur en scène qui, pour moi, revient beaucoup, c'est John Huston. Par la noirceur des personnages, parce que là, quand même, le deal qu'il a dans le film, il deal un peu avec le diable. Hein. Nils Hasselstrup, qui joue le personnage, c'est pas un tendre.
Non, voilà.
C'est le diable du film. Si tant est qu'il y avait un diable, il le fait fumer, on est avec toutes ses connotations. Quoi. Et donc, le cinéma d'Audiard, il se balade il est balisé à la fois par le cinéma français, devenu maintenant d'une certaine façon classique, mais qu'il n'a pas été au moment de sa sortie, parce que Jean-Pierre Melville, quand ses premiers films étaient très très modernes dans leur fabrication. Et un certain cinéma américain de genre, dont je citerai Huston, parce qu'il me semble que dans la noirceur des personnages, dans un désir d'individualisme, c'est ce cinéma-là qui ressort. Voilà. Je ne sais pas si je réponds à ta question, Vincent.
C'est pas grave, non. L'essentiel, c'était. c'est d'en dire plus, non, sur le rapport du père.
Alors, père-fils, ça, c'est une constante dans le cinéma de Jacques Audiard. On avait ça déjà à l'œuvre dans son premier opus qui s'appelait Regarde les hommes tombés. Alors, ce n'est pas à proprement parler un père, c'est un père de substitution. C'était déjà Trintignant-Kassovitz. Il fonctionne en duo, Audiard. C'est quelqu'un qui crée des duos. Et en plus, on prend un duo qui se transforme en triangle avec un personnage de fâcheux introduit. Dans Regarde les hommes tombés, c'était Jean-Yann, le fâcheux. Et ce duo d'acteurs père-fils Kassovitz-Trintignant. Dans le deuxième film, c'est de nouveau Trintignant-Kassovitz dans un héros très discret, pardon. L'apprentissage, le goût de la substitution, de la mystification. Et plus à son compte, dans le troisième film Sur mes lèvres, on a là aussi un duo qui devient pour la première fois un duo amoureux au sens classique, femme fatale de Voss et gars qui se réinsère dans la société, qui veut faire sa place, hein, il y a aussi faire sa place dans les cinémas d'Audiard. Et le quatrième film de Battre mon cœur s'est arrêté, où déjà Nils Hasselstrup jouait le père dans le film de Romain Duris, qui est en frustration, qui n'est pas content de son sort et qui veut évoluer vers une carrière artistique qu'il ne pourra pas embrasser. Donc ces thèmes-là, si on les décortique, ce qu'on n'a pas le temps de faire aujourd'hui, on se rend bien compte quand même qu'ils portent tous des valeurs communes, ils fonctionnent tous à peu près sur des... Et le mot n'est pas du tout réducteur, sur des mêmes schémas. Après, ce qui fait la qualité des films d'Audiard, c'est que ces schémas, ils sont transcendés et explosés, et ils nous amènent plus loin, quoi. Ils nous amènent à voir des images inédites et des histoires finalement inédites faites dans des vieux pots. Parce que cette histoire du prophète, le film carcéral, c'est un sous-genre en soi. Sauf qu'en général, la proposition, c'est on met des gens en prison et ils essaient de s'évader. Dans Le Prophète, en aucune façon, le personnage tente de s'évader, puisque par un récit, par une astuce artistique, il arrive à sortir plusieurs fois dans le film et il n'y a pas eu toute proposition de s'évader, puisqu'il se construit à l'intérieur de cette prison. Voilà.
Alors, j'avais prévu un extrait, justement, où on voyait comment Luciani faisait substituer l'avocat de Malik pour lui donner son avocat corse, ouais, qui, lui, a toutes ses entrées dans la prison et est en contact avec le juge d'application des peines. Enfin, voilà,
tout et ça. Qui permettra à la période d'Arim de sortir fois, d'avoir ce qu'on appelle les conditionnels.
Et de bosser, donc, pour faire... il va se servir de cette journée qui est quand même 8 heures. Hein. C'est pas grand-chose. Ouais. Hein, quand on est enfermé pendant un an, on sort 8 heures dans la journée. Et en plus, on bosse pour quelqu'un qu'on va retrouver. Et on va écouter justement un autre extrait où il est aux prises avec Luciani. Ça se corse, si je devais faire un jeu de mots.
Si tu peux te balader partout dans la tôle, c'est parce que je t'ai fait nommer Oxy. Si tu bouffes, c'est à cause de moi. Si tu rêves, si tu penses, si tu vis, c'est à cause de moi. Tu dis que t'as pas de maton, pauvre con. Hein. Il y a écrit partout nous tiens, il sur ta gueule. Tu lui tires la bête, Bélin. Non, mais te regarde, c'est moi qui vois. Et sinon, qu'est-ce qu'il verrait? Tu peux me dire ce qu'il verrait?
Et ça, c'est toute la question du film, en fait. Hein. Si on regarde Malik, finalement, qu'est-ce qu'il verrait, effectivement, les gens? Nous, en tant que spectateurs, on voit plein de choses.
Oui, mais nous, on est toujours dans la position confortable de celui qui regarde et celui qui écoute aussi. Oui. Hein, pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure, on n'a pas l'image là aujourd'hui, donc ça permet aussi de dire que le cinéma, ça se voit et ça s'écoute aussi. Ça s'écoute sur le travail du dialogue, sur tout le travail de son qui est considérable. Là, c'est un film qui est très fouillé au niveau du son. Et la perf de Nils Hellstrup, là, qui joue le parrain course, on l'a, l'intensité. Cet acteur, il a eu quelques soucis par le passé parce qu'il était tellement dans la densité de ses personnages. C'est une anecdote où il a travaillé avec... Myriam Boyer, la mère de Clovis Cornillac au théâtre il y a quelques années, et ça, tout ça s'est fini devant le juge d'instruction parce que sur scène il était censé l'étrangler, et sauf qu'il l'étranglait tous les soirs pour de bon. Quoi. Donc ça a très mal fini. C'est une anecdote un peu à la con, mais ça montre à quel point ce type est dans l'intensité. Mmh. Et pour répondre à ta question, oui, on est toujours dans la position où on a tous les éléments. Avant le, ça aussi c'est une grande force et il y a une cohérence quand même par rapport à ça. Tout ça monte là. Pourquoi? Parce que le rapport du dominé dominant va plus le film va avancer, plus va s'inverser pour devenir un rapport de force par rapport à celui qui au départ sur lequel on n'aurait pas mis un copec quoi. Il y a aussi le jeu avec les images et tout ce que ça représente.
Alors, bien, justement, on va montrer un peu le double jeu, comment tout ça peut basculer. Alors, justement, César n'est pas au courant de quelques discussions qu'il peut avoir avec ce qu'il appelle ses frères, c'est-à-dire la grosse partie musulmane hein, de la prison qu'on voit quand même en surnombre par rapport à ces Corses qui sont qu'une poignée.
Je vois à quoi vous servez ici, ce que vous faites, et je respecte ça. Mais le pouvoir, c'est pas vous qui l'avez. Les Corses, ils sont ça et ils tiennent la tôle, parce qu'ils ont des matons. Vous, vous priez dans des porcheries, vous dormez dans des cellules de merde. À chaque fois que vous levez la tête, on vous tape dessus. Peut-être que si l'imam Moussabi savait ça, il saurait quoi en faire de l'argent sale. Tu cherches quoi, toi? La même chose que toi, Hassan. Améliorer ma vie à celle de mes potes.
Tu prends pour un con, là, ou quoi? Ce que tu veux, c'est de servir de nous, c'est tout.
Et alors? Et alors, si c'est bon pour toi et moi?
Écoute-moi bien, toi. Tu passes directement par l'imam une fois de plus, je te fais planter. Pour le pognon maintenant, c'est avec moi que tu discutes. On règle ça entre nous, d'accord?
Ouais. On lui cause mal quand même à ce Malik, hein. Enfin, que ce soit les Corses ou ses frères, on lui cause mal, mais mine de rien, il arrive à
faire son chemin. Il encaisse, mais c'est le seul personnage qui progresse. Les autres régressent et lui, il gagne si on était sur une image, il gagne du terrain, de plus en plus de terrain. Alors, ça c'est un terrain... qui gagne au prix de sa vie, hein. Il remet chaque fois sa vie en jeu. D'ailleurs, il y a des scènes dans le film où le dialogue est explicite là-dessus. Il le dit carrément, moi je joue ma tête. Quoi. Quand il sort justement à accomplir les forfaits que lui demande d'accomplir le personnage de Nils Hellstrup. Mais chaque fois, il progresse. Et il est toujours dans le deal. Hein, quand même. Là aussi, de nouveau, il y a un deal, tu passes par l'imam, j'ai besoin de m'aider. Hein. La politique du deal et du marchandage, elle est aussi, c'est une des constantes du cinéma d'Audiard. Il y a toujours des gens qui viennent proposer des choses dans lequel forcément la personne à qui on propose des choses risque quelque chose. Hein. Ça aussi, c'est très fort dans le cinéma d'Audiard. C'est peut-être d'ailleurs, si on cherchait des allégories, à rapprocher d'une autre lecture qu'on peut faire du prophète. Ce film, effectivement, il est dans un univers carcéral, mais les barreaux, est-ce que c'est pas un prétexte pour nous parler d'une société qui s'est durcie et dans lequel tout est devenu marchand, dans le sens où tout le monde a des choses à négocier avec les autres? Hein, Audiard, quand il est monté sur scène et récupéré son César, il a parlé de quoi? Il a parlé de son papier, enfin, et de Bachung. Il a un discours quand même assez politisé. Je pense que c'est quelqu'un qui regarde la société. Et c'est un peu cliché de le dire comme ça, un peu convenu, mais ses films parlent de façon très forte, et je pense aussi de façon très cruelle, malheureusement, de la société et de ses deals permanents des uns avec les autres. On n'a pas besoin d'être en prison pour dire à quelqu'un: si tu me donnes ça, je te donne ça. Ou voilà, hein, on passe notre temps à faire ça. Et je crois que c'est au centre de ce film-là aussi.
Alors après, est-ce qu'on peut terminer par le scénario ? Parce qu'il y a quelques surprises quand même dans le scénario, même si on passe un long moment dans la prison, si on s'en évade avec Malik qui a ses journées pour bosser pour Luciani, il y a quand même des passages assez étranges, je trouve. Un moment où Malik se trouve assez mal en point avec un malfrat marseillais, et puis là il y a quelque chose qui arrive très très peu dans les scénarios, surtout pour des films qui sont censés être un peu réalistes.
Ah oui, il y a une image onirique, une image un peu cristal qui vient chevaucher comme ça le
film. Je trouvais ça très étonnant, moi.
Moi je trouve ça aussi étonnant. Moi je trouve que ce
qui n'est pas forcément présent dans le reste de ces films, hein, c'est pour ça que
tout à fait, ça serait à discuter, mais ce régime, ce film à un moment donné dérègle un folklore traditionnel poussé à l'extrême avec beaucoup d'originalité. Sur un régime très onirique, sur deux trois plans effectivement où on voit des gazelles, si je me souviens bien, quelque chose qui va,
un cerf ou une biche,
assez onirique. On pourrait se demander qu'est-ce que ça vient planter là. Moi, je j'ai pas forcément une réponse bien définie et bien construite et bien terminée, mais ce que je peux dire, c'est que quand on a affaire comme ça à des auteurs qui assument, ils sont assez libres. Ce geste, il est issu de quelqu'un qui est venu au cinéma de façon naturelle. Il n'a pas fait d'études de cinéma. Il a toujours baigné dans un monde du cinéma. Il dit, j'ai un rapport au monde naturellement tourné sur le cinéma par mon père, mais j'ai pas fait d'études de cinéma. Moi, j'ai fait des études de lettres, donc j'aime écrire. J'aime la musicalité des mots, d'où les titres, par exemple, de ces films, qui sont tous des poèmes en soi. Et peut-être ce gars se permet, justement, parce qu'il n'a pas fait l'école de cinéma, de se censurer. Donc, si à un moment, il veut placer une image qui est un peu évocatrice d'un certain onirisme, il va pas se gêner. Il va pas se censurer. Donc la force, elle est là. Et moi, je crois que chez les grands auteurs aujourd'hui, la force, elle devrait être de ce côté-là tout le temps. Du côté de oser imaginer autre chose. Et pas nous présenter toujours des formats ou des conventions, ou ce que moi j'appelle du folklore. Dérégler le régime. Cette séquence-là, elle est assez inouïe. Elle fonctionne dans le film, si tu te souviens bien. Elle heurte jamais la sensibilité du spectateur. Enfin, dans l'image que je m'en suis fait, je sais pas, Vincent. Pour moi, elle heurte pas le... Elle est presque, elle n'est pas logique, mais elle n'heurte pas.
Voilà, mais c'est parce qu'elle n'est pas logique dans un scénario qui est quand même bien huilé, quoi. Enfin, quand même, malgré tout. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, Martin, puisque t'avais fait la chronique d'un
prophète. Non, c'est vrai que cette scène en particulier, c'est un peu une sorte d'explosion au milieu qui a pas grand-chose à voir avec le reste. Mais en effet, ouais, c'est pas quelque chose de très choquant, même si pour le coup, d'un seul coup, le rêve débarque. Ou c'est pas vraiment le rêve, mais une sorte de prémonition débarque au milieu d'un truc complètement réaliste. Il y a aucun autre moment où il fait preuve d'un quelconque super pouvoir de.
Mais là, il fait pas. C'est un flash qui arrive. Rappelle-toi que le personnage qui l'a dessoudé au départ dans le film va revenir de façon onirique.
Oui, c'est vrai qu'il y a ça, il y a ces moments-là. Ouais.
Il revient dans le film deux, trois fois, c'est des ponctuations qui sont amenées de façon très, non pas très radicale, dans la douceur, et qui fonctionnent. Après tout, quand on voit des images un peu ésotériques chez Stanley Kubrick, personne ne s'en émeut. Je voudrais que ce crédit-là soit aussi accordé à un petit peu à Jack Odier qui, à mon avis, le mérite amplement.
C'est vrai que c'est pas la seule scène où il y a ce côté un petit peu fantastique qui vient intervenir, parce qu'il y a en effet une sorte de fantôme qui revient régulièrement, qui lui parle, qui lui explique des choses, qui participe aussi à son éducation.
J'ai le sentiment que le spectateur l'accepte sans. On sort pas du film.
Non, mais ça, toute cette partie où, c'est effectivement le personnage qu'il a tué, qui revient le hanter, ça, c'est compréhensible. Voilà.
Mais pour moi, ça c'est pas gênant pour le spectateur. Ça vient pas
cette scène,
qu'est-ce que cet élément fantastique vient faire là. On se pose pas cette question.
Pour terminer là-dessus, je sais pas quel message contient cette image en particulier. Et puis, de toute façon, le mot message, moi sur les films, j'ai beaucoup de mal. Les messages, pour moi, c'est la publicité qui les fait, c'est acheter du coca et du nougat. Mais peut-être qu'il faut la prendre comme elle vient, naturellement, comme quelqu'un qui a un flash, une prémonition. Je pense que ça existe. On ressent des fois des choses sans les avoir. Vu avant qu'elles arrivent, on peut ressentir une émotion.
Un prophète.
Voilà. Elle est basée probablement sur l'émotionnel du personnage. Elle est rattachée, cette image à l'émotionnel du personnage. Voilà, je pense.
Voilà, bah on n'a pas plus le temps que ça de continuer sur Un Prophète, donc eh bien on vous le conseille, il est sorti en DVD depuis le mois de février, certains cinémas le ressortent, vu le succès qu'il a remporté avec ses 9 Césars. On précise aussi que pour le scénario, ils étaient quand même 4 à travailler,
sûr, hein.
Jacques Audiard n'était pas tout seul.
Ça passe de main en main, ouais. C'est fluctuant quoi, mais dont
Raouf Dafri qui avait signé le scénario de du diptyque Mérine, qui était déjà un bon film de gangster, enfin moi j'avais bien apprécié sa vision.
Qui leur est de façon beaucoup plus évidente, à mon avis, du côté du cinéma américain de genre. Oui. Hein, c'est ça qui est intéressant aussi.
Oui, parce que Richet, il était passé par la case super production, enfin, grosse production américaine. Avec, voilà.
Mais chez Audiard, on n'a pas quelqu'un qui se revendique du cinéma américain plus que du cinéma français. On a quelqu'un qui intègre tout le cinéma qu'il aime, qui va du cinéma français au cinéma américain, et je pense qu'on découvre encore des choses. On a ça chez Tarantino dans une mesure, mais où la citation est trop évidente. Chez Audiard, la caractéristique essentielle pour moi, c'est la subtilité. La fois dans la construction savante, le dépouillement esthétique qui fait de ces films-là un style, il a un style unique, un style qui s'adapte à ce qu'il raconte et qui va devenir du coup très 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 original. Voilà, moi je vois pas d'équivalent aujourd'hui dans le cinéma français. Il y en a peut-être, hein, mais
non, c'est vrai que oui, on peut comparer à Melville en effet pour certains côtés, ouais. Mais voilà, c'est un cinéma qui commence à dater aussi. Mais c'est vrai qu'actuellement il y a des Marshall et compagnie qui essayent de faire des films de gangsters, des films comme
ça
un petit peu.
Ça fait plutôt mal aux dents, ça fait pour moi.
Ouais,
Et j'invite les auditeurs à revoir les films d'Audiard, regarder ces histoires de duo, de gens qui progressent en fonction des deals qui sont faits dans les films, de la façon dont les films sont éclairés, photographiés, les mouvements d'appareil aussi qui sont jamais innocents chez Audiard. Enfin, les techniques sont pas ultra compliquées puisqu'on a affaire à quelqu'un qui a pas fait d'école de cinéma mais qui va pas la faciliter, mais chez qui tout devient évident. Quand on regarde Sur mes lèvres, on se pose pas de questions à un moment donné de savoir pourquoi Vincent Cassel, qui est prisonnier de Olivier Gourmet, et Emmanuel Devos en face sur un truc, est-ce qu'elle va arriver à lire sur ses lèvres? C'est évident, tout ça coule. Quand dans Le Prophète, le personnage d'Arim sort de prison, c'est évident puisqu'il y a le principe de la conditionnelle. Tout est logique chez Audiard. Il n'y a pas de place pour l'à peu près. Tout est une exactitude. Les films que tu as cités sont pour moi des choses très approximatives. Oui. Le seul but est de lorgner sur des entrées et un certain cinéma commercial américain. J'ai rien contre ce cinéma-là, mais on est loin de ce régime-là, je pense.
Merci Patrick en tout cas d'avoir parlé de Audiard. On passe au gros morceau, le dernier film de Roman Polanski.
Oui, alors gros morceau. Donc pendant que Roman Polanski se morfondait dans son chalet à Gstaad en se bourrant de chocolat, suisse bien sûr, je me suis moi-même personnellement assigné à résidence ces deux derniers jours chez moi pour essayer de vous pondre une petite critique donc du dernier long métrage du papa de Rosemary's Baby. Ça n'a pas été facile. Alors, The Ghost Writer nous raconte l'histoire d'un écrivain chargé par son éditeur de servir de nègre à l'ancien premier ministre britannique Adam Lang, qui veut rédiger ses mémoires. Mais ce contrat, a priori juteux, va s'avérer non seulement compliqué à remplir, mais également particulièrement dangereux. Alors, en effet, le prédécesseur de notre écrivain fantôme, fraîchement débarqué dans le monde de requins de la politique, a été retrouvé mort sur une plage quelques temps plus tôt. Alors, suicide ou meurtre, on peut se poser la question. Surtout qu'au même moment éclate un scandale qui implique Adam Lang et qui l'accuse de crimes de guerre et de collaboration avec les États-Unis dans une affaire de lutte contre le terrorisme. Alors avec ce film, Polanski nous offre un thriller à la construction efficace. Si le récit ne nous scotche pas vraiment au fauteuil, on suit quand même les mésaventures du personnage principal avec un intérêt qui est à peine entaché par une durée peut-être un peu excessive. Alors The Ghost Writer bénéficie du savoir-faire indéniable de Polanski en matière de thriller, donc la mise en scène, le montage sont impeccables. Le film parvient à trouver son rythme entre attente angoissée et course en avant, et le scénario mélange habilement fausses pistes et digressions pour mieux nous perdre et stimuler notre empathie pour le personnage principal. Alors déroutés, nous le sommes jusqu'au bout puisqu'il faut attendre les toutes dernières minutes pour avoir une vision d'ensemble du tableau machiavélique que le réalisateur a peint pour nous. Donc, il serait bien sûr criminel de vous raconter le dénouement, même si au final certains spectateurs seront sans doute un peu déçus d'avoir fait le déplacement pour si peu. Mais je peux au moins vous dire que Polanski nous a concocté une fin dont il a le secret, qui devrait vous laisser pantois assez longtemps pour contempler le générique de fin dans son intégralité. Alors dans le rôle du nègre, Ewan McGregor est comme à son habitude plutôt transparent, ce qui pour une fois colle parfaitement à son personnage et permet aux autres protagonistes de gagner en épaisseur. Pierce Brosnan s'avère parfait en homme politique bougon et grossier, et Olivia Williams et Kim Cattrall viennent compléter le casting en y apportant une dominante féminine plutôt inattendue dans ce film sur le pouvoir et sur les luttes intestines qu'il déclenche. Alors je ne connais pas particulièrement bien la filmographie de Roman Polanski, j'ai surtout vu ses films grand public, disons, Pirates, La Neuvième Porte, Chinatown et compagnie. Donc je ne peux pas, comme certains, m'ébahir du talent dont il a fait preuve dans cette nouvelle exploration de ses thèmes de prédilection. Autoréférences et citations de ses précédents films sont, paraît-il, présents à foison dans The Ghostwriter. Mais bon, pour ma part, l'élément qui m'a le plus frappé et que je serais tenté d'inscrire dans une certaine continuité, donc à la suite de Rosemary's Baby, de Chinatown ou de La Neuvième Porte, c'est cette figure du personnage qui est dépassée par les événements, qui se perd complètement à trop vouloir trouver un sens à des actes incompréhensibles dont il semble être le point focal. En ça, Polanski réussit parfaitement son coup. Il nous plonge avec son protagoniste dans un piège aux parois transparentes, plus pervers qu'il n'y paraît. Donc le film baigne dans une atmosphère glaciale, humide et battue par les vents de la petite île où se sont réfugiés le ministre et son entourage pour échapper au scandale. La maison dans laquelle le réalisateur a confiné ses personnages pendant une bonne partie du récit est une véritable prison à laquelle on ne peut accéder qu'après une série de contrôles de sécurité. Les immenses baies vitrées qui renforcent cette impression d'austérité en donnant une vue imprenable sur les mornes plages qui entourent la propriété permettent également au réalisateur de composer quelques plans magnifiques où la profondeur de champ et l'inscription de cadre dans le cadre appuient ce sentiment d'enfermement tout en entretenant une illusion de liberté, un certain rêve de liberté. Donc à plusieurs reprises, les comédiens viennent s'échouer contre ces vitres comme des insectes hypnotisés par la lumière qui ne savent plus comment se sortir de l'impasse. Et bon, ce décor imposant, qui est une véritable matérialisation des problèmes qui frappent les protagonistes, c'est à mon avis une des très bonnes trouvailles du film. Alors Polanski aime jouer avec ses personnages comme un chat avec des souris, les malmenant juste ce qu'il faut avant de les dévorer tout cru. Mais bon, si le film est cruel, il n'en est pas pour autant dénué d'humour, donc un humour souvent burlesque qui nous rappelle au passage que quand il s'agit de faire de la comédie, le réalisateur du Bal des Vampires s'en sort plutôt bien en jouant sur l'absurdité de certaines situations et en parsemant les dialogues de quelques répliques savoureuses. Donc voilà, The Ghostwriter, à mon avis, c'est un bon petit thriller politique qui se suit sans problème, même s'il aurait gagné à être amputé d'un bon quart d'heure pour être plus efficace. Le film en soi n'a rien de révolutionnaire, mais son classicisme assumé et la maîtrise dont fait preuve Polanski dans la narration, dans la composition des plans et dans la direction des acteurs en font un film bien sûr supérieur au tout venant. Donc de là à lui donner un l'ours d'argent du meilleur film, je ne sais pas, ça peut se discuter. Oui, c'est comme tu dis Patrick, c'est peut-être politique, parce que j'en ai pas parlé, mais quasiment toutes les critiques que j'ai pu lire sur ce film vont trouver des relations, des sortes de prémonitions entre ce film et ce qui arrive dans l'actualité de Polanski, également ce qui arrive dans l'actualité de...
C'est une constante aujourd'hui, là, on le voit avec l'effet César ou quoi, de politiser un peu tout ça. C'est quelque chose que fait Cannes depuis maintenant 20 ans, l'équipe Gilles Jacob, là. Mais c'est une tendance lourde des festivals, des cérémonies à prix, tout ça, hormis les aspects promotionnels et... essentiellement financiers, qui aux États-Unis sont clairs parce que ces enjeux sont mis en média, hein. C'est-à-dire qu'on achète Variety 3 semaines avant les Oscars et tout le monde a acheté des pages de pub pour vanter les mérites des films et des uns et des autres et qu'on sait tout ça.
C'est de l'auto-congratulation,
mais surtout c'est de la com et c'est de la politique économique.
C'est vrai que sur des festivals comme Berlin ou Venise,
c'est étonnant parce que légitimement ce festival qui a historiquement vu là où il est endroit, où il est localisé, Berlin, une ville très symbolique de certains régimes à un moment donné, enfin un certain état d'histoire, la guerre froide, avait une certaine aisance, une certaine liberté, latitude par rapport à ça. Et j'ai l'impression que comme tous ces festivals qui veulent exister de façon médiatique, ils se croient tous obligés de faire des messages en disant on va donner un prix à tel pour ça, le machin, tout ça. C'est de l'habillage, tout ça. Enfin, je trouve ça un peu suspect, moi, personnellement. Mais ça n'enlève rien au talent de Polanski.
Oui, voilà.
Et à ce que tu as dit, je n'ai pas vu le film, moi, mais je trouve ça très, très.
Franchement, je pense qu'il y a énormément de choses à dire pour des vrais connaisseurs de Polanski. Voilà, pointer tous les petits détails qui sont en référence à ses précédents films.
Qui s'amuse, comme tu l'as dit, avec le spectateur, qui est un grand cinéphile aussi, comme Scorsese, peut-être, dont on parlera tout à l'heure, et qui a l'art consommer des plans non spectaculaires qui en disent beaucoup. Ça aussi, ça se perd.
C'est vrai qu'il y a un certain souci du quotidien, des petits plans sur des petites choses qui n'ont pas forcément grand-chose à voir avec l'action ou les péripéties. Mais ça, il a un certain génie à filmer.
Le goût du détail qui était déjà présent dans Rosemary Baby ou Le Locataire. Je ne sais pas si tu as vu Le Locataire. C'est assez extraordinaire sur comment à un moment on peut dérégler en une image incliner des tendances qui vont être lourdes après pour le film. C'est assez rare dans le cinéma, ça, quand même.
Voilà, donc,
Donc avant de passer à ma dernière chronique, je ne sais pas si je vais avoir le temps, si je vais avoir largement le temps, je vous propose d'écouter, donc histoire de d'aérer un petit peu cette émission riche en paroles, d'écouter donc un deuxième petit extrait de la bande originale de Crazy Heart dont je vous ai parlé en début d'émission. Voilà, c'est le film, la musique s'appelle, la chanson s'appelle, je ne sais plus.
On s'en moque, elle est
Somebody Else, je crois. Voilà. Voilà donc un extrait de la bande originale de Crazy Heart, c'était la voix de Jeff Bridges qu'on entendait, qui chantait cette petite chanson country. Donc on va passer à un tout autre univers, puisqu'on va parler un petit peu de vampires. Donc à intervalles réguliers sortent sur les écrans des films qui témoignent d'une certaine volonté de bouleverser, renouveler, voire révolutionner le genre vampirique. Donc de Vampire de John Carpenter qui délocalisait ses suceurs de sang sous le soleil de l'Ouest américain, à Blade qui présentait un hybride humain-vampire capable de survivre en plein jour mais soumis comme ses demi-frères ennemis à une soif bestiale de sang humain, en passant par l'excellente, l'immense, j'ai envie de dire, trilogie Underworld qui met en scène une guerre souterraine entre vampires et lycanthropes, eh bien le film de vampire a toujours été un genre propice aux expérimentations scénaristiques et filmiques. Donc si à l'époque de Bela Lugosi, puis plus tard celle de Christopher Lee, le vampire était synonyme de cape rouge, vieille bâtisse et toile d'araignée, le tout enveloppé dans un style gothique qui a fait les beaux jours des studios Hammer ou Universal, aujourd'hui le vampire est plus volontiers décliné en cuir, moto et semi-automatique chargé de balles en argent. Donc si l'imagerie un peu désuète du vampire dandy et baroque a été modernisée par certains longs métrages comme le Dracula de Coppola, ou Entretien avec un vampire de Neil Jordan, elle est aujourd'hui volontiers remplacée par un traitement plus réaliste, plus ancré dans le réel. Donc de temps en temps, un film s'éloigne un peu des canons du genre et change la donne. Ça a été le cas de Martin, de George Romero en 77, qui pendant toute la durée du film laissait planer le doute quant à la véritable nature de son protagoniste. Ce fut aussi le cas de Chronos, premier long métrage de Guillermo del Toro, qui revisitait à sa façon le mythe du vampire, et plus récemment l'adaptation du livre Let the Right One In, par Thomas Alfredson, ainsi que le film Thirst de Park Chan-wook. Voilà, sont venus encore une fois donner de jolis coups de pied dans cette fourmilière à série B, voire Z, qui est devenue le genre depuis quelques années. Donc mercredi dernier, un nouvel exemple de cette formidable vitalité des immortels drogués aux globules rouges est venu éclabousser nos écrans. Le film s'intitule Daybreakers et il est réalisé par les frères Spirig, qui l'on doit le film de mort-vivant fauché Undead, qui était sorti en 2004. Donc dans le monde de Daybreakers, l'humanité a été frappée par une terrible épidémie et en quelques années, la quasi-totalité de la population mondiale a été transformée en vampire. Le monde s'est donc réorganisé autour des nouvelles contraintes induites par la mutation. Les gens vivent principalement la nuit pour échapper au soleil. La loi sur le tabac dans les lieux publics est devenue obsolète en même temps que les entreprises de pompes funèbres. Et le sang humain est devenu l'or rouge de ce 21e siècle où les mendiants ne font plus la manche pour quelques pièces, mais pour quelques gouttes du précieux liquide. Alors malheureusement, les humains, les vrais humains, commencent à se faire rares et le manque de sang menace de transformer les plus démunis en goules dégénérées et agressives. Alors Edward Dalton est un vampire hématologue qui travaille depuis des années sans succès à la création d'un sang de substitution Et alors qu'il est sur le point de déclarer forfait, il rencontre un humain qui prétend avoir trouvé un remède au vampirisme, donc l'espoir d'un retour à la normale avec lequel certains puissants ne sont pas forcément prêts à renouer. Alors, la première réussite de Daybreakers, vous l'aurez compris, c'est son scénario assez malin qui, en réutilisant quasiment l'intégralité des gimmicks du genre, parvient à créer un univers complètement nouveau et passionnant. Alors que dans la plupart des œuvres traitant du même thème, les vampires sont une minorité occulte, ici c'est la multitude qui apporte de nouvelles pistes à explorer. Donc, comment la société s'organiserait si les miroirs devenaient subitement insensibles à nos charmes? Comment organiserions-nous nos journées de travail si le soleil était notre pire ennemi? Enfin, que ferions-nous si la substance sur laquelle se fonde notre mode de vie venait à manquer, voire à disparaître? Donc le monde dessiné par les frères Spirig est fascinant parce qu'il banalise l'exceptionnel pour mieux nous parler du quotidien. Certaines scènes sont ainsi des transpositions à peine voilées du monde réel, dans lequel il n'est malheureusement pas rare de voir des gens péter complètement les plombs quand notre précieux carburant ne coule plus à flot continu dans les stations-service, dans lequel les pouvoirs publics sont prêts à tout pour expulser de nos villes ceux qu'ils considèrent comme des rebuts d'humanité, tout juste bons à être expédiés sous un soleil ou sous des bombes chargées de faire le sale boulot à leur place et de les envoyer ad patres. Donc voilà, la foule de détails et de bonnes idées narratives dont fourmille le film est, à mon avis, à elle seule une excellente raison d'aller le voir. Mais l'originalité du scénario n'est pas le seul point à mettre en valeur dans Daybreakers. Le film des Spirig bénéficie aussi d'une belle brochette d'acteurs entièrement dévoués à la cause. Donc Ethan Hawke, qui renoue avec un univers glacial qui évoque un petit peu le Bienvenue à Gattaca d'Andrew Niccol, mais en version sombre, dégénérée. Ethan Hawke incarne avec conviction donc ce vampire hématologue désabusé qui doit affronter non seulement sa mutation, mais qui doit aussi faire face à la cruauté et l'avidité de son patron. Donc un patron superbement campé par Sam Neill, tout en violence rentrée, et parfaitement à l'aise dans le seul rôle véritablement emblématique du genre. Enfin, il y a Willem Dafoe qui vient lui aussi prêter sa belle gueule burinée à un personnage entre le James Woods du vampire de Carpenter et le Morpheus de Matrix. Donc voilà, un très bon casting, pas de fausse note, même chez les seconds rôles. Ensuite, d'un point de vue visuel, les frères Spirig ont fourni un excellent travail sur la mise en scène, sur les effets spéciaux qu'ils ont réalisés eux-mêmes pour la plupart. Les maquillages sont très réussis et les créatures, donc les ghouls mutantes que deviennent les vampires sevrés de sang, sont à la fois très effrayantes, mais sont aussi touchantes dans leur impuissance face au manque. Ensuite, les débordements gore dont les réalisateurs ne font pas l'économie ne sont pas gratuits, comme c'est trop souvent le cas dans les films d'épouvante. Ils viennent donner un impact viscéral à certaines scènes qui, pour certaines, resteront vraiment dans les annales du genre, comme ce massacre final en forme de pied de nez qui, une fois encore, transpose la réalité de façon grotesque. Donc voilà, le film des frères Spirig, c'est à mon avis un film hautement recommandable, puisque en plus de remplir parfaitement son cahier des charges de films d'action divertissants, en plus de satisfaire les fans du genre en mettant en scène tous les éléments mythiques qui font la saveur des films de vampires à l'ancienne, eh bien les réalisateurs se permettent également d'avoir quelque chose à dire. Donc bien sûr, on n'est pas dans une incroyable finesse hein, avec ce discours, on pourrait aisément éclipser la dimension critique présente dans leur long métrage. Mais bon, c'est toujours mieux qu'un long discours didactique asséné à grands coups de tatane par un super-héros bien pensant.
Voilà, Daybreakers passe seulement au Gaumont Multiplex et au Méga CGR du côté de Montpellier et passe aussi à 7.
Mais donc un film que je recommande voilà, pour les amateurs, à déconseiller fortement aux mamans et aux jeunes enfants, bien sûr. Mais à mon avis, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu un film de vampire aussi inventif.
Eh bien, on n'aura pas le temps de parler de Shutter Island. Tu le déplores, Patrick?
Non, j'aurais bien aimé dire quelques mots sur cet immense metteur en scène qui est Martin Scorsese, et peut-être un peu moins immense Shutter Island, mais bon, ça aurait été un débat entre nous trois, mais on fera ça à l'apéro.
Mais il faut quand même aller voir le film qui est plutôt bien réussi, selon moi. On parle juste très très vite des événements ce soir. Le rêve italien, c'est à 19h50 au Diagonal de Michele Placido.
Qui avait fait Romanzo Criminale.
Ah oui. En avant-première, demain à 20h15, La Révélation de Hans Christian Schmidt.
Et j'ai bien connu sa grand-mère.
Voilà, avec Amnesty International. Alice dans les villes, film de Wim Wenders, ce sera lundi 15 mars à 13h45.
Et Martin Scorsese qui vient dîner ce soir chez moi, mais ça c'est...
bien sûr. Et puis l'absence de Cyril de Gasperis, c'est lundi aussi 15 mars à 18h15.
Il ne sera pas là donc. L'absence sens de...
Ça se termine assez sur la maladie d'Alzheimer, voilà, donc c'est présenté par l'association France Alzheimer, voilà. À vous de choisir sur.
Et puis quelques sorties aussi signaler dernier film de Winding Refn, Valhalla Rising.
Et de trucs, à mon avis, assez une expérience assez ultime.
Et de Kitano aussi à l'Utopia avec Achille et la Tortue. On écoute la haine pour terminer ce générique.
C'est à moi que tu parles ? C'est à moi que tu parles ? C'est à moi que tu parles, enculé ? C'est à moi que tu parles ? Hein ? Ça, c'est à moi que tu parles, là ? Oh, 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 c'est à moi que tu parles ! C'est, mec, c'est à moi qui parle, enculé ! C'est à moi qui parle, putain ! C'est à moi que tu parles comme ça, mec !
Cinérama sur Divergence FM.
Excusez-moi encore de vous avoir dérangé. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous téléphoner. Vous faites le 17, c'est facile.
Ah non, c'est le 14. Non,
le 14, c'est les télégrammes.
Mais les pompiers, alors.
Les pompiers, c'est le 18. D'ailleurs, si vous voulez vous renseigner, faites le 12. Sans rancune.